Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur un moment afin que ce message touche vos cœurs. Seigneur Jésus, je te prie de tout mon cœur afin que tous ceux qui sont venus écouter ce message puissent être enrichis et bénis de comprendre toutes les choses merveilleuses que tu fais pour nous et auxquelles tu nous associes aussi. Je te demande, mon Dieu, que chacun puisse être saisi par vraiment ton Saint-Esprit avec le sérieux et la consécration pour pouvoir bien écouter et bien comprendre ce qui va être dit. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous allons ouvrir les Écritures dans Romains chapitre 1, verset 16, s'il vous plaît, Romains chapitre 1 et verset 16. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ce qui veut dire par là, c'est des juifs et des non-juifs. Le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle, puisque le mot Évangile signifie bonne nouvelle, le message de la bonne nouvelle que Jésus a commencé de rétablir depuis la Réforme, cet Évangile doit être annoncé par la puissance. Et la puissance de Dieu, c'est son amour. L'Évangile de Jésus-Christ doit être enseigné avec la puissance de l'amour divin. Le Saint-Esprit a répandu cet amour dans nos cœurs pour cela. Nous n'enseignons pas l'Évangile de Jésus-Christ pour un intérêt personnel, ni même pour l'intérêt d'une dénomination religieuse. On ne cherche pas à faire une grande église quand on fait de l'évangélisation. C'est pas ça qu'on cherche. Nous enseignons l'Évangile de Jésus-Christ qui a été rétabli pour l'intérêt de Dieu, pour l'intérêt de son Église et pour l'intérêt des gens à qui on l'enseigne, évidemment. Le Saint-Esprit, c'est la puissance dont nous avons besoin pour être de bons témoins, des témoins efficaces. Un bon témoin, c'est un témoin efficace. C'est-à-dire des témoins qui touchent les cœurs. C'est-à-dire des témoins qui touchent le centre des personnes qui écoutent, les choses, l'essentiel. Une fois que l'essentiel est touché, une fois que le cœur de la personne est touché, alors le message de Jésus-Christ, sa bonté, son amour, irradie dans toute cette personne. Il faut toucher le cœur. Le rôle du Saint-Esprit, c'est d'enseigner la vérité, c'est de témoigner de la vérité, c'est donc par le pouvoir du Saint-Esprit que nous devons enseigner le plan du salut, et non pas par notre force de persuasion. Vous avez des gens qui ont plus de facilité que d'autres à parler. Eh bien, pour celui qui n'a pas beaucoup de facilité pour parler, ce n'est pas une excuse pour ne pas témoigner, pour ne pas prêcher. Parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on doit le faire, et non pas par des talents naturels, de bel orateur, etc. Pas seulement... Il y a tellement de gens qui parlent, qui prêchent l'Évangile simplement avec des anecdotes un peu émouvantes ou terrifiantes. Non, c'est par le Saint-Esprit que nous devons enseigner. C'est-à-dire en ayant un Esprit Saint. En ayant notre propre Esprit Saint, c'est-à-dire débarrassé de zèle amer, débarrassé d'intérêt personnel, etc. Il y en a qui prêchent parce que ça leur donne un sentiment d'importance. C'est pas bon. Nous devons avoir un esprit saint. Notre esprit doit être saint, débarrassé de ce qui est charnel. Lorsqu'on enseigne l'Évangile par le pouvoir du Saint-Esprit d'amour, alors il va pouvoir nous révéler ce que nous avons à dire. Il nous rappelle les points de doctrine essentiels que nous avons déjà étudiés quand on prêche l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. C'est différent quand on prêche à une église. Là, bien sûr, le Saint-Esprit peut venir à notre secours et nous aider aussi, nous rappeler des choses. Mais je pense de tout mon cœur que pour apporter une nourriture solide dans l'église, il vaut mieux se préparer à l'avance et avoir quelques notes. Maintenant, pour prêcher l'Évangile à des inconvertis, il faut connaître ce que c'est que l'Évangile. Et ça, une fois qu'on le connaît, eh bien, c'est tout simple. On le dit. Avec la puissance, le secours et l'inspiration que le Saint-Esprit nous donne. Quand nous enseignons le plan du salut par le pouvoir du Saint-Esprit, il va toujours nous donner les paroles dont nous aurons besoin au moment où nous en aurons besoin. Nous ouvrons notre bouche et il la remplit. Quand nous enseignons le plan du salut par le pouvoir du Saint-Esprit, alors c'est lui, le Saint-Esprit, qui va se charger de porter nos paroles dans le cœur, dans le centre de ceux qu'on instruit. Il faut que nous soyons en communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui témoigne de la véracité de ce qu'on dit. Et il va aller jusqu'à confirmer votre message dans le cœur de la personne. Et si besoin même, en faisant des miracles. Mais l'ordre du Seigneur, c'est que nous devons annoncer en son nom tout ce que nous annonçons. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire en son nom, il ne faut pas le dire. C'est-à-dire, dit autrement, l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, c'est d'annoncer en son nom les choses avec solennité de cœur et un esprit d'humilité. Je ne vous parle pas de parler d'une façon solennelle comme ça, non. Mais que les gens ressentent que l'esprit qui vous anime, c'est un esprit sérieux. Que vous êtes en train de leur dire quelque chose de sérieux. Si votre esprit est en communion avec le Saint-Esprit, la promesse est que ce que nous dirons sera oint. Et vous serez à même de discerner les besoins des personnes que vous allez instruire. Vous savez, mes frères et sœurs, le rôle du Saint-Esprit est essentiel pour enseigner les vérités de l'évangile du salut. Si on veut que l'évangile du salut produise la foi chez les autres. C'est pourquoi nous devons être remplis nous-mêmes du Saint-Esprit. Avoir des cœurs purifiés de tout péché, de toute forme d'égoïsme, d'orgueil. Ça ne s'improvise pas. Ça se prépare dans le lieu secret de la prière. Un témoin, un prêcheur doit garder... Il doit garder les commandements de Dieu, il doit les avoir amassés diligemment dans son cœur, en lui-même, et s'efforcer de les garder lui-même, avant de vouloir aller raconter des histoires aux autres. Un vrai serviteur de Dieu, il aime la parole de Dieu. Il la lit, il la médite. Il y pense le jour, il en rêve la nuit. Parce que la parole de Dieu est remplie de l'esprit de prophétie, c'est l'esprit de prophétie. Alors, l'œuvre d'un disciple, c'est pas de chercher à annoncer la parole de Dieu. Mais avant tout, l'œuvre du disciple, c'est d'obtenir la parole de Dieu dans son propre cœur, dans son propre centre, pour la vivre. Et c'est seulement à ce point-là que la langue de ceux qui servent Dieu pourra être utilisée par le Saint-Esprit. Et pour annoncer, donc, toutes les vérités, non pas des arguments en faveur de Dieu. La parole vivante de Dieu, c'est celle qui opère des miracles de transformation de vie. Il n'y a que la parole de Dieu qui fait ça. Tout le baratin à côté, non. Oubliez. Vous avez déjà été mis à part pour votre appel sacré. Et vous avez été mis à part avec la promesse que le Saint-Esprit vous conduira. Mais il y a une condition, et la condition est que vous devez satisfaire aux conditions fixées par le Seigneur. C'est-à-dire en utilisant la prêtrise dignement et en vous aidant de la prière pour recevoir la force spirituelle. La force spirituelle doit être renouvelée jour après jour. Ça sera la preuve de votre appel. Jésus lui-même, il avait besoin d'être renouvelé dans sa force spirituelle. Et vous, avec la prêtrise, vous avez le pouvoir de représenter le Seigneur, de faire les choses en son nom, de parler en son nom. C'est ça, la mise à part. C'est une mise à part consciente par rapport au péché, par rapport au charnel, par rapport à tout ce qui est vil, par rapport à tout ce qui est méchant, de bas étage. C'est une mise à part du monde, pour être mis à un niveau supérieur de pensée, un niveau supérieur d'activité. Fait, la bénédiction dépend de l'accomplissement consciencieux de votre tâche.
Je vous parle de tout ça parce que j'étais frappé. L'autre jour, je suis allé à l'enterrement de mon papa Raphaël, le gitan. Et le pasteur qui a fait le sermon a dit que Raphaël était le plus grand évangéliste de la mission de Zigane et que vraiment c'était un homme de Dieu extraordinaire. Et bon, il ne savait ni lire ni écrire, mais il aimait Dieu, il aimait les gens. Et il dit, ce qui est regrettable, c'est qu'on ne lui a jamais demandé d'aller enseigner dans l'école biblique comment évangéliser, puisqu'il était le plus grand. Pourquoi on ne lui a jamais demandé? C'était un peu tard, il était dans le cercueil là, et je me suis dit, il serait bon que je dise à mes frères et sœurs du château et aussi qui viennent sur Internet ou qui regardent les vidéos, qu'on n'évangélise pas, on ne s'improvise pas comme ça. C'est un travail. Vous savez, les peintres, par exemple, un jour, nous avons travaillé ici avec un peintre et quelqu'un a dit à ce peintre, « Mais combien de temps vous mettez pour faire un tel tableau ?» Et ce peintre a dit, « 56 ans. » « Quoi, 56 ans ?» C'était l'âge du peintre, il avait 56 ans. En fait, dans chaque tableau, il investissait toute sa vie, toute son expérience, toutes ses émotions, tout ce qu'il avait vécu. Eh bien, l'évangéliste, quelqu'un qui apporte l'évangile de Jésus-Christ, soit en prêchant dans les églises, en plein air, devant des foules, ou simplement en faisant du 1 à 1 dans le métro, sur les marchés, n'importe où. Un évangéliste, son message, c'est le concentrer de toute sa vie avec Dieu. Il doit mettre tout le paquet. Ça, on ne s'improvise pas. Je le redis, votre autorité s'accompagne de la responsabilité de vivre de manière à être digne de votre appel. Parce que si vous êtes représentant de Jésus, pour vous qui êtes au sanctuaire là, vous êtes également représentant du sanctuaire. Vous êtes représentant de la communauté. Vous êtes représentant de mon ministère. Comment dire les gens quand ils vont vous entendre? Ah bon, c'est comme ça qu'on fait au sanctuaire? Ah bon, c'est comme ça? Dans 1 Timothée 4:12, on nous dit que les témoins doivent être des modèles. Des modèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Alors, efforcez-vous de vivre selon les commandements de Dieu, gardez les alliances que vous avez faites lors de votre baptême, lors de votre renouvellement d'alliance avec la Sainte Cène, le lavage des pieds, et aussi pour ceux du sanctuaire, gardez l'alliance que vous avez faite le 28 juin 2009. Soyez sérieux avec ça. Connaissez les Écritures, soyez imprégnés des Écritures, soyez polis. Soyez ponctuels, soyez dignes de confiance. Suivez les règles missionnaires que nous enseigne la parole de Dieu. Jésus a envoyé les siens 2 par 2. N'interrompez pas celui qui est en train de parler, de votre collègue qui est en train de parler, ne l'interrompez pas. Attendez votre tour poliment. Et puis alors, soignez votre présentation. Surtout, les sœurs, pas trop de maquillage, s'il vous plaît. Soyez un peu maquillé discrètement, mais ne soyez pas... Et puis, il y a un habillement décent, évidemment. Aimez les gens que vous êtes en train de servir. Honorez continuellement le nom de Jésus-Christ par vos paroles et par vos actes. Mes frères et sœurs, l'exercice, la prêtrise exige de nous, de vous, que vous soyez forts dans la connaissance de la vérité, que vous soyez d'une saine intelligence et que vous ayez sondé diligemment les Écritures afin de connaître ce que Dieu dit et donc ce que Dieu veut, parce que ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu veut. Ça exige cela de nous. C'est pas parce que vous avez juste lu le verset biblique sur le calendrier semence, la bonne semence, que vous avez lu la parole de Dieu aujourd'hui. Nous n'avons pas à témoigner, à prêcher des discours persuasifs qui reposent sur la sagesse humaine, mais nous avons à annoncer la parole de Dieu sur une démonstration d'esprit et de puissance, c'est ce que 1 Corinthiens 2:4 nous dit. Regardez. Je vous disais que Raphaël ne savait ni lire ni écrire. Il était incapable de lire sur une bouteille de lait, si c'était du lait ou du vin. Il savait pas. Mais quand il prenait la Bible, il pouvait la lire. Dieu avait fait un miracle pour lui, il pouvait lire la Bible. Parce qu'on a besoin des Écritures pour connaître ce que Dieu dit, donc ce que Dieu veut. Sinon, on est des bricoleurs. On va lire Jean 15, 1 à 16. C'est une longue lecture, mais pensez, réfléchissez pendant que je fais cette lecture. Jean 15, 1 à 16. Jésus parle et dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ceci et mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ah ! Les trois questions, donc, sont : en quoi Jésus-Christ est-il le cep ? Réfléchissez à ça. Prenez votre Bible, prenez un papier et écrivez « En quoi Jésus-Christ est-il le cep ?» La deuxième question, c'est « De quelle façon êtes-vous un sarment de ce cep ?» Écrivez ce que vous pensez à ce sujet. Prenez un papier, méditez, pensez, réfléchissez. « De quelle façon suis-je un sarment de ce cep ?» Troisièmement, « Quel rapport y a-t-il entre votre mise à part et cette relation cep-sarment? » Écrivez ce que vous pensez. Répondez à ces trois questions. Vous n'êtes pas obligé de me les envoyer, de me dire ce que vous pensez. Non, mais vous, méditez face à Dieu et réfléchissez devant le Seigneur au sujet de ces trois questions. Écrivez-les et relisez-les et corrigez, améliorez la pensée. C'est l'Évangile, la bonne nouvelle qui définit votre message et votre objectif. L'Évangile vous fournit le contenu de votre œuvre de prêtrise et deuxièmement, il vous fournit la raison de votre œuvre de prêtre. Dans l'Évangile, on trouve les points essentiels et fondamentaux de la saine doctrine. 1. Jésus est venu dans le monde pour faire la volonté de son Père. 2. Son Père donc l'a envoyé pour qu'il soit élevé sur la croix. Il a dit « C'est pour 7 heures que je suis venu ». Et 3. Grâce à son expiation et à sa résurrection, tous les hommes seront relevés, c'est-à-dire ressuscités, pour se tenir debout devant Dieu afin d'être jugés selon leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ceux qui font preuve de foi au Christ, qui se repentent de leurs péchés et qui sont baptisés au nom de Jésus-Christ, peuvent être mis à part par le Saint-Esprit. S'ils persévèrent ainsi jusqu'à la fin, ils seront sans tâche devant Dieu au dernier jour et ils entreront dans le repos du Seigneur. Jésus les tiendra pour innocents devant le Père, il sera leur médiateur, il sera leur avocat. Mais ceux qui ne persévèrent pas dans la fidélité jusqu'à la fin seront jetés au feu à cause de la justice du Père. Vous voyez, tout ça, on vient de le lire dans Jean. C'est ça l'histoire. Et c'est ça dont on parle quand on évangélise. On n'est pas en train de dire « Venez à Jésus, vous aurez la paix, la joie et le bonheur ». L'évangile pour gamin de 3 mois, ça. Pourquoi témoignons-nous? Pourquoi prêchons-nous? Afin que les gens soient purifiés de leurs péchés, pour qu'ils reçoivent la miséricorde du Sauveur. Nous sommes envoyés pour un travail bien spécifique, celui de conduire les gens à recevoir Jésus, à recevoir l'évangile par la foi en Jésus-Christ, à recevoir les bienfaits de son expiation. Comment? Par le repentir, par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon Actes 2, 38, par la réception du Saint-Esprit et par la persévérance jusqu'à la fin de se sortir de cette génération perverse. C'est ça que nous avons à annoncer. On peut dire qu'une personne commence à suivre Jésus quand elle fait preuve de foi en lui et qu'elle se repent de ses péchés. Là, elle reçoit la rémission de ses péchés. Elle se fait baptiser en signe d'alliance conclue. Et là, à ce moment-là, Dieu la scelle par son esprit, par l'intermédiaire d'une personne qui détient la prêtrise. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette doctrine, Michel? Mais qu'est-ce que c'est cette doctrine? Lis ta Bible et lis-la bien. Actes chapitre 8, verset 14-17. Ce soir, l'autre jour, à l'enterrement de Raphaël, le pasteur a parlé aussi de Violette, l'épouse de Raphaël. Et il a dit, chez nous les gitans, on ne peut pas dire qu'on croit que les femmes ont un ministère. Bon, ça les regarde. Il dit, mais quand même, il faut reconnaître que Violette a beaucoup reçu de Dieu. Elle a reçu du Seigneur, le Seigneur lui a dit, je te scelle et tu scelleras les autres. Il a dit, des milliers et des milliers ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit quand cette femme a prié pour eux. Je fais partie de ces gens-là. J'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit en 1969 avec Violette au bord du lac Léman à Vevey. Impossible d'oublier ça. J'ai été scellé. Écoutez bien. Actes chapitre 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Donc les gens avaient reçu la parole de Dieu. Nul ne peut dire que Jésus-Christ est Dieu si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc ils avaient reçu le Saint-Esprit. Jésus avait soufflé sur eux, mais ils n'étaient pas encore scellés. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Vous voyez, ils ont été là, scellés. Et nous devons les amener jusque-là. Et puis ensuite, ils vont persévérer. Là, c'est eux, ils vont persévérer jusqu'à la fin. En d'autres termes, ils vont continuer pendant toute leur vie à faire preuve de foi en Jésus-Christ. Continuer à confesser leurs péchés à mesure. Et continuer à renouveler les alliances. Voilà ce qu'ils sont appelés à faire. Voilà pourquoi nous témoignons, voilà pourquoi nous prêchons l'évangile. C'est la seule façon de vivre qui donne la paix de la conscience. C'est de recevoir l'évangile et de persévérer. C'est la seule façon de vivre qui permet aux esprits de retourner au Père afin de vivre dans sa présence éternellement. C'est le seul chemin. L'obéissance à Jésus-Christ est un engagement de toute une vie. C'est ça, être converti et né de nouveau. Voilà mes frères et sœurs, je voulais vous dire ça, je vous en reparlerai encore avec d'autres textes pour vous parler en particulier du scellement. C'est important mes frères et sœurs, on n'est pas des bricoleurs, on ne s'improvise pas. Maintenant je pense que vous avez compris et que vous allez maintenant pouvoir être des gens efficaces et que vous allez pouvoir porter du fruit. Jésus a dit, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle et que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. Voilà, je vous ai enseigné ces choses. Soyez vraiment fermement établis, greffés, ne faisant qu'un avec le cèpe. Vous êtes les sarments. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus d'aider mes frères et sœurs à prendre conscience de toutes ces choses, à réécouter ce message, à prendre des notes, à répondre aux 3 questions aussi que je leur ai posées de ta part et à faire des progrès dans leur vie spirituelle pour que ton nom soit glorifié. Merci Jésus de permettre qu'ils puissent porter beaucoup de fruits, que des nouvelles personnes puissent se joindre à ton église et qu'ils aient en eux tout ce qu'il faut pour pouvoir aller jusqu'au bout avec fidélité et loyauté. Au nom de Jésus mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. À bientôt. Le Seigneur vous bénisse.